France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment les livres peuvent changer nos vies alors que les Françaises et les Français lisent de moins en moins. 45% seulement des Français lisent tous les jours, ou presque, selon le Centre National du Livre. Pourtant, la littérature détient ce pouvoir extraordinaire de nous faire vivre d'autres vies que la nôtre. Le pouvoir de nous glisser dans la peau d'un esclave noir en Louisiane, d'un paysan du XIIIe siècle, une voyageuse intergalactique, une femme au foyer qui s'ennuie, une prostituée du temps de Marc Aurèle, un surfeur californien des années 2020, un homosexuel russe sous Poutine, un mousquetaire de Louis XIII, une bande d'ados du nord de la France. Comme le rappelait si bien le pape François, pour se former à l'expérience humaine, rien ne pouvait mieux le faire que le roman et la poésie. Une co-construction entre l'auteur et le lecteur, féconde pour comprendre le monde et la complexité de l'âme humaine, nous rappellera l'un de nos invités, William Marx, tandis que notre convive, Carlo Ossola, il nous dit que les livres sont des messagers qui viennent de loin et s'arrêtent devant nous. Il faut se préparer à cette visite et entretenir une conversation. Et vous, racontez-nous quels sont les livres qui ont changé votre vie au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Jeune fille, toute ta vie, tu entendras des gens te dire que la lecture des romans ne sert à rien, que la littérature n'a jamais sauvé le monde. Alors à quoi sert-elle ? À rien, si ce n'est à nous aider à nous supporter nous-mêmes et à combattre les pires calamités qui nous arrivent. C'est Alexandre Solzhenitsyn, luttant contre le cancer et le goulag, par la lecture et l'écriture. C'est Karine Thuil, convoquant la poésie dans la douleur de l'amour, ou Sylvain Tesson, réparant son squelette émietté en relisant Apollinaire, Peggy, Bernanos, Malaparte. Les lecteurs que je viens de citer sont des hommes et des femmes peuplés. La foule des personnages et des auteurs qui les habitent depuis qu'ils aiment lire n'est pas seulement une compagnie, c'est une force qui leur permet d'affronter les pires vacheries de la vie. Et cela s'appelle la littérature.
Daniel Pénac, dans le podcast d'Augustin Trapenard, Lettres d'intérieur. Bonjour Carlo Ossola.
Oui, bonjour.
Bienvenue, je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Vous êtes historien de la littérature, professeur émérite au Collège de France. Vous avez été titulaire de la chaire Littérature moderne de l'Europe néo-latine. Après Les vertus communes, plus que jamais indispensables en ce moment, vous publiez aux belles lettres Entrée sans frapper. Ce livre, Carlo Ossola, est né quand il a fallu que vous déménagiez la forêt de livres de votre bureau du Collège de France vers l'Italie, vers Turin, où vous habitez. Et vous demandez à des photographes de conserver le souvenir de ces milliers de livres, ces arbres de mots, comme vous l'écrivez, qui vous ont toujours entouré et caressé. Votre livre, c'est un résumé et un hommage à tous ces livres qui vous ont accompagné. Et vous écrivez que les livres sont les plus dignes interprètes de votre vie.
Oui, effectivement, je pense que, comme nous l'avons entendu de la voix de Daniel Pénac, les livres sont d'abord les meilleures représentations de nos rêves et de nos désirs, sont les amis auxquels on peut faire recours sans besoin justement de frapper à la porte. Ils sont là, on peut les ouvrir, demander des conseils à n'importe quelle heure. Et comme le disait le marchand florentin du XIVe siècle, Giovanni di Pagolo Morelli, qui était un marchand très attentif, il disait à son fils... et en plus, ils te reçoivent sans frais. Et donc, effectivement, nous avons là une réserve de sens, une réserve d'amitié, une réserve d'avenir très importante. Il suffit de simplement de les interroger, de les laisser parler. Je pense que aujourd'hui, la lecture est vraiment une ressource contre et face à ce monde qui semble ne plus avoir de sens, de perspective, je dirais même d'utilité pour la société.
Bonjour William Marx.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, critique, éditeur, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire littérature comparée. Dernier ouvrage paru aux Équateurs, Un été avec Don Quichotte, fruit de vos émissions diffusées sur France Inter. Votre bureau du Collège de France ressemble également à une forêt de livres. Ça ressemble au bureau de Carlo Sola ?
En fait, il se trouve que Carlo Sella ayant pris sa retraite du Collège de France, je le salue ici à distance, en fait, c'est moi qui lui ai succédé dans son bureau. Et voilà, c'est assez incroyable. Et donc, quand j'ai vu l'extraordinaire livre de Carlo Sella avec les photographies de ce bureau, incroyable, que j'ai découvert quand je lui ai rendu visite la première fois, qui était une caverne de livres qui croulait sous les paperasses, sur les livres, sur les tables, etc. C'était des pyramides. C'était un monument. J'étais extrêmement ému de voir que, en fait, la mémoire de ce bureau, elle restait dans ce livre, elle était perpétuée. Et chaque fois, maintenant que je rentre dans ce bureau, qui est sans doute l'un des plus beaux bureaux du Collège de France que j'ai la chance d'occuper, j'ai effectivement à la fois la mémoire de Carlo Sola qui est là, encore présent par son fantôme, et par tous ces fantômes de livres qui étaient là. Alors moi, j'ai aussi beaucoup de livres dans cet extraordinaire bureau. J'en ai pas encore autant que Carlo, mais il viendra peut-être un jour où ils s'entasseront de manière démesurée. Mais je crois que c'est une expérience physique de voir cela, et heureusement ce livre magnifique permet de transmettre cette expérience.
Le livre s'est entré sans frapper. Alors William Marx, vous avez préfacé « Loué soit la lecture », la lettre du pape François publiée aux Équateurs. Que dit-il en substance le pape François à toutes celles et à tous ceux qui ne lisent pas ?
Eh bien, il dit d'abord qu'il faut lire, qu'il se prive de quelque chose qui est absolument fondamental dans l'humanité. La lecture, vous l'avez rappelé à l'instant en citant les propos du pape François, a quelque chose de très différent en fait par rapport aux autres arts qui sont extraordinaires, hein, que sont le cinéma, tous les arts fournis par les écrans, les films. C'est-à-dire que lorsque vous êtes devant un écran, vous assimilez passivement ce qui est devant vous. Lorsque vous êtes dans un livre, vous êtes dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de co-construire le livre. Vous êtes à la fois dans la réalité courante, mais aussi vous êtes en train de construire le monde qui sort du livre, un peu comme Don Quichotte qui voit autour de lui les héros, les monstres qu'il a vus dans ses romans de chevalerie qu'il lisait et qu'il voit surgir maintenant dans le monde autour de lui. Eh bien, en gros, la lecture développe un sixième sens. Vous êtes à la fois dans le monde et vous êtes aussi en train de construire des images qui ne vous sont pas imposées, mais c'est vous qui les construisez. Donc il y a une participation du lecteur au sens et à l'imagination du livre, et cette participation-là, elle a des implications, nous dit le pape François, qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'en fait, vous entrez directement dans la psyché des personnages. Ils ne sont pas devant vous, mais vous devenez eux-mêmes. Et la lecture, la complexité des romans, la complexité, alors je vais utiliser un gros mot, la complexité herméneutique, c'est-à-dire la complexité des sens des romans où un personnage, un héros, en particulier par exemple dans les grands romans de Dostoïevski, eh bien un héros n'est jamais ni totalement positif, ni totalement négatif. En fait, la complexité des fictions, des histoires que vous lisez, vous permet de comprendre qu'en fait le monde est beaucoup plus complexe que ce que vous pensiez. Et donc, le pape a des formules, enfin, l'ex-pape, le pape François a des formules assez extraordinaires. J'en voudrais citer deux que je trouve assez incroyables, venant de la part d'un chef de l'Église, à savoir que la littérature, et il pense à la fiction et à la poésie, il faudra revenir sur la poésie, mais la littérature nous permet d'entrer dans l'humilité de la non-simplification. L'humilité de la non-simplification, c'est-à-dire savoir accepter humblement que le monde est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Et une deuxième formule que j'adore et qui est très forte, c'est-à-dire il faut renoncer à la domination cognitive sur le monde. C'est-à-dire renoncer à penser que l'on connaît tout sur le monde et qu'on peut le juger si simplement. Eh bien, justement, c'est ce que nous apprend la littérature. Et je trouve incroyable qu'un chef religieux, comme un pape, qui est le chef de l'Église catholique, accepte de dire que la littérature est une manière de se détacher de toute vision simpliste du monde et d'entrer dans la complexité, le mystère même de la réalité.
Et nous y reviendrons largement ce matin. La littérature, sous toutes ses formes, donne un accès direct à la parole vécue sans intermédiaire. Bonjour Régine Atchondo.
Bonjour.
Vous êtes présidente du Centre National du Livre. Vous avez récemment publié avec le ministère de la Culture et Ipsos un baromètre « Les Français et la lecture ». 1001 personnes âgées de 15 ans et plus représentatives de la société française qui ont été interrogées. Et un constat très clair, Régine Atchondo. Les Français lisent de moins en moins. 56% se déclarent lecteurs réguliers. C'est 5 points de moins par rapport à 2023. Et les femmes continuent tout de même à lire davantage que les hommes. Et le décrochage, alors là, est très net. Ça m'a étonné. Non pas chez les jeunes, mais chez les 35-49 ans et surtout chez les 50-64 ans.
Oui, c'est ce qui nous a aussi, et c'est pour ça qu'on a mis ce résultat en exergue, c'est ce qui nous a aussi inquiétés, car au fond, les résultats sur les jeunes, on s'y attendait. Il suffit de regarder dans le métro, dans le train, dès qu'on sort de chez soi, la présence du smartphone en permanence vissée sous le regard des jeunes, et des moins jeunes aussi d'ailleurs, pour se rendre compte qu'effectivement, on n'est pas surpris, et puis les enseignants le disent, les médecins alertent depuis quand même un certain nombre d'années aujourd'hui, sur effectivement le décrochage des jeunes avec la lecture. Mais là, cette année, pour la première fois, on assiste à un décrochage de la génération qui est, j'allais dire la nôtre.
Oui.
On n'a pas le même âge, mais bon. Et c'est inquiétant parce que ça veut dire que vraiment le gros. Alors forcément, tous les deux ans, cette étude a lieu et les questions que l'on pose à des groupes par tranche d'âge vieillissent. Et ce n'est pas non plus surprenant qu'une nouvelle génération arrive et n'ait pas la même relation à la lecture que celle que vous décrivez. C'est-à-dire cet attachement, ce sentiment de ne jamais être seul, d'avoir un compagnon, de pouvoir rentrer sans frapper. On sait bien que ça concerne plus une génération ancienne que la toute jeune génération, mais on pensait quand même garder nos lecteurs réguliers de plus de 55 ans plus longtemps dans notre étude Ipsos.
Bonjour Sylvain Gédrézac.
Bonjour Ali.
Vous êtes libraire dans la très réputée librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines.
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Je pensais que c'était à Montigny-le-Bretonneux. Ah, c'est Montigny-le-Bretonneux.
C'est à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une grande librairie indépendante.
Et vous sentez, vous, ce décrochage dans votre librairie ?
Oui, alors on en parlait tout à l'heure un petit peu hors antenne. Il faut vraiment. Ce baromètre est très intéressant parce qu'il nous montre que les jeunes, finalement, ne sont pas les seuls concernés. Et a fortiori, quand on voit que la lecture quotidienne baisse de 4 points chez les jeunes, mais 15 points chez les 15-64 ans. Et nous, voilà, c'est le challenge, c'est le défi de la librairie indépendante. Il faut ramener les jeunes, en tout cas réussir à les capter, à les captiver. Mais le public, qui est assez souvent féminin, effectivement, entre 50 et 64 ans, on constate qu'effectivement, il est en train de partir. Et notamment au niveau des smartphones, faut pas croire que les jeunes sont les seuls à être attachés aux smartphones. Et surtout, ce qui est surtout embêtant, c'est que on décroche d'un livre parce qu'il y a une notification. Ouais. Parce qu'on veut vérifier un truc sur Internet, et ça déconcentre totalement. Et on remarque effectivement de plus en plus de personnes âgées, entre guillemets, sont concernées par ça.
Et l'étude le montre très bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne font pas que lire. Ils regardent leur smartphone en même temps, une série Netflix, ils font autre chose en même temps.
Ils répondent beaucoup aux réseaux sociaux, ils regardent les vidéos YouTube, et évidemment ça interdit, ça empêche le fait de se laisser totalement porter par les personnages, par l'imaginaire de l'auteur. Et donc je pense que ça détruit aussi le plaisir de lire.
Carlos Sola, je ne vous imagine pas en train de lire du Dante et en train d'envoyer des SMS. Ça vous paraît totalement incongru, j'imagine ?
Oui, tout à fait. Il est impossible d'établir un dialogue avec un ami en faisant autre chose. Il faut quand même... D'abord, c'est une question de politesse, et puis c'est une question aussi, je dirais, de rapport, de conscience, de la grandeur de celui avec qui vous êtes en train de parler. Et du reste, je pense, je sais que c'est comme ça, mais en même temps, je pense à quelques remèdes. Et le très beau livre d'Alberto Manguel, oui. Les bibliothèques la nuit, ça me fascine parce que, effectivement, au moins la nuit, je crois, on devrait éviter d'avoir des, voilà, des nouvelles sur le smartphone. Et il y a des bibliothèques américaines comme à Yale, où les parois sont de marbre clair, il y a une espèce de lumière neutre, éternelle, il n'y a pas le jour, il n'y a pas la nuit, et il faudrait peut-être faire une espèce d'appel pour dire « essayons de lire tous la nuit ».
Alors, c'est pas forcément un mal, hein, effectivement, d'avoir son téléphone à côté du livre, parce que moi, j'ai beaucoup de jeunes qui utilisent le téléphone comme un lien hypertexte.
Oui.
Quand on lit quelque chose d'un petit peu historique, par exemple le dernier Norek, qui est oui, le guerrier de l'hiver, qui parle d'un événement historique qu'on connaissait finalement assez peu, en tout cas, moi, je connaissais pas du tout. La guerre entre la Russie et la Finlande, on se rend compte qu'effectivement, c'est vraiment basé sur des faits historiques, et on a envie d'y aller, on a envie d'en apprendre plus sur les personnages, sur les faits, et ça, c'est plutôt positif.
Vous avez raison, Sylvain Gédrézin, c'est-à-dire qu'effectivement, prendre son smartphone pour vérifier une information, pour aller, par exemple, sur une appli de dictionnaire, pour vérifier un mot, etc. Oui, évidemment que là...
Et c'est souvent le cas.
Ça représente combien de nos interactions ?
Gwenaëlle Boulay, bonjour.
Pardon, ça représente combien de nos interactions d'aller vérifier une info par rapport à se laisser distraire de notre lecture ?
Il y a les deux.
Moi, je crois qu'on s'est tous fait piéger.
En pourcentage, le temps passé sur les réseaux sociaux, TikTok...
Le scrolling concerne absolument tout le monde, ça, effectivement. Oui.
Non, mais c'est surtout que le pourcentage de temps que ça prend sur l'utilisation du smartphone est de 90% versus 10% de recherche d'accès à la connaissance et au savoir. Si on...
William Marx.
Il faut quand même pas se tromper d'utilisation.
Oui, écoutez, moi aussi, je dois avouer ma faute et ma très grande faute, c'est-à-dire que moi aussi, effectivement, même quand je lis, je suis perturbé par les smartphones. Alors, il y a des solutions qui existent ou qui existaient. Je pense qu'il faut les utiliser, ces solutions. D'abord, je lis beaucoup, effectivement, des textes électroniques, mais j'évite et je ne les lis jamais en fait sur les tablettes, etc. En revanche, je lis beaucoup sur les liseuses. Et la liseuse, c'est formidable, c'est-à-dire qu'elle a d'abord un magnifique écran qui comme de l'encre, donc ça ne fatigue pas les yeux. Et en plus, vous n'êtes pas sur la liseuse dérangé par les notifications des smartphones et des tablettes. Ça, c'est une chose. Et puis, je conseille aux gens, et c'est moi ce que je faisais quand parfois je travaillais en province, etc., de prendre le train. Parce que lorsque vous êtes dans le train, vous êtes un peu coupé du monde, et en espérant que les réseaux 4G ne se développent pas trop, vous pouvez à ce moment-là... Moi, je regrette beaucoup ces longs voyages en train que l'on pouvait faire, où l'on avait effectivement la possibilité de se concentrer dans le livre. Le voyage est vraiment propice à la lecture, et je regrette beaucoup que dans le métro, en fait, les réseaux téléphoniques se soient développés de manière extraordinaire, mais en même temps, ça empêche de lire, et on voit bien que les gens sont sur leur téléphone à ce moment-là.
Je travaille 16 heures par jour, je voyage énormément.
Grand bien vous fasse.
Dans le peu de temps que j'ai, je passe au bord de ma piscine, seul, à lire.
À lire
Sartre, Mauriac, Kandinsky.
Kandinsky.
Oui, ça m'aide beaucoup.
Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse à tous ces livres qui détiennent ce pouvoir extraordinaire de changer nos vies. Racontez-nous d'ailleurs quels sont les livres qui ont changé votre vie au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Avec nous ce matin, les professeurs au Collège de France, Carlo Ossola et William Marx, la présidente du Centre National du Livre, Régina Tchondo, et le libraire à Montigny-le-Bretonneux, Sylvain Gédrézac. Écoutons l'écrivain Grégoire Delacour.
Les livres je parlais de Pagnol tout à l'heure, m'ont pas réparé, mais m'ont sauvé la vie à un moment où j'aimais pas la mienne, à un moment où heureusement qu'il y avait des barreaux aux fenêtres des pensions. Et après, des années plus tard, 40 ans plus tard, je me suis mis à écrire aussi pour remercier les livres, parce que les livres peuvent vraiment changer, dérouter la vie et nous emmener dans des lieux, que ce soit des livres de poésie, de contes, des livres policiers, n'importe. Dans tous les livres, il y a des choses qui peuvent changer nos vies. Et je m'aperçois avec une joie inouïe que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire des livres qui ont changé ma vie. Aujourd'hui, certains des miens changent. la vie des gens. J'étais à Fleury-Mérogis il y a quelques années pour parler d'un de mes livres. Et un de mes livres a siphonné réellement la colère d'une détenue qui voulait sortir, qui était en colère, et qui a lu un livre, et c'était La liste de mes envies, et qui a dit « Oh, je vais sortir, je vais profiter de chaque jour d'être dehors, de profiter de la chance que j'ai ». Je trouve ça bouleversant que les livres soient à ce point presque humains et rentrent dans la vie des gens.
Extrait du podcast « Les gens lisent sont plus heureux » en 2019. Autour de la table, quels sont les livres, les autrices, les auteurs qui ont changé votre vie, qui vous ont peut-être sauvé à certains moments de votre existence? Ça commence avec vous, Carlo Sola du Collège de France.
Moi, je choisirais, parce que, bien sûr, comme on vient de l'entendre, les livres sont vraiment, se parlent l'un l'autre, donc on ne peut pas en sortir. C'est une communauté, voilà. Mais comme il faut tenir la promesse, je choisis le livre de Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire de l'ONU, « Jalon ». Que j'ai lu quand il a été traduit en italien en 1966. Il venait de disparaître au Congo en 1961 et on a publié plus tard, en 1963, son journal. Et c'est la longue continuité de quelqu'un qui avait choisi de servir l'humanité. Et donc, son journal répondait d'une certaine manière à l'effervescence de l'époque. 68 se préparait, il y avait un peu partout ce besoin de changer le monde, et la réponse qui m'a sauvé, littéralement, venant de ce journal, est « pour changer le monde, il faut d'abord changer soi-même ». Il faut essayer de maîtriser nos pulsions, il faut essayer de comprendre d'où venons-nous, etc. Et surtout, avoir à l'esprit cette longue tradition stoïcienne, le fait que finalement, nous sommes des servants inutiles. Il l'a été jusqu'au bout. Et donc, ça a été pour moi fondamental et ça reste.
Je redonne le titre de ce livre qui est publié aux éditions du Félin, c'est « Jalon » de Dag Hammarskjöld. J'espère que je prononce bien. C'est publié aux éditions du Félin. Regina Tchondo.
Écoutez, comme vous le dites très justement, c'est extrêmement difficile.
Je sais.
C'est très, très, très difficile. Ce matin, bien sûr, j'y ai pensé, hier soir aussi, mais entre-temps, vous dites que vous vivez à Turin, je pense au métier de vivre de Pavèze, qui est un chef-d'œuvre absolu, donc je me dis, j'ai oublié Pavèze. Moi, j'étais sur La promesse de l'aube, c'est assez classique. Hein. Oh, c'est promesse bien. De l'aube, évidemment...
De Romain Gary.
Je ne cesse de lire et relire le tout petit livre de Xavier Gortz, Lettre à D.
Ah oui.
Ah oui.
Qui est probablement la plus belle déclaration d'amour, je pense, qu'on peut lire au monde, même si par ailleurs on devine que Dorine s'est beaucoup sacrifiée pour son homme, donc ce n'est pas un livre woke. J'aime beaucoup la littérature américaine, je pense notamment à James Elter avec Un bonheur parfait. Mais je vois les choix féminins aussi de Annie Ernaux, de votre journaliste tout à l'heure, Annie Ernaux. On parlait de Simone de Beauvoir avant que l'émission ne démarre. Oui, ces paroles aussi, Virginia Woolf, enfin toutes ces femmes aussi qui ont pris la parole. Mais comment choisir?
Sylvain Gédrézac.
Alors moi, j'ai un livre qui m'a sauvé la vie, mine de rien. J'avais 19 ans. C'était en 1997, donc calculez mon âge, on en parlera plus tard. Ça s'appelle « Le chameau sauvage ». Donc c'est un livre que vous connaissez, Ali, puisque vous connaissez son
Philippe
auteur.
Philippe Jayenada.
Ah, ben oui.
Extraordinaire.
Et alors, Philippe Jayenada, bon, après, j'adore Philippe Jayenada, il a deux époques, on va pas revenir dessus, c'est un écrivain majeur contemporain. Et « Le chameau sauvage », ça m'a aidé à... J'étais pas bien dans ma vie, j'avais 19 ans, ça m'a aidé à me rendre compte qu'on pouvait avoir une vie de peu... Parce qu'à l'époque, c'est ce que je pensais. J'avais peut-être tort, mais une vie petite, de petites gens, de petits mecs qui ne savaient pas trop où il allait. Et pourtant, avoir quand même les honneurs d'un livre, puisque le héros qui s'appelle Alvard Sands, c'est quand même un mec, la première scène, il remplace un radiateur dans sa salle de bain, il n'y arrive pas. Sa Dulcinée, il la rencontre, elle est assise, il fait nuit, c'est dans Paris, ils ont peut-être bu un petit peu quelque chose. Elle a a un tabouret dans la main. Enfin, c'est picaresque, c'est absolument surréaliste, c'est un mec, un loser, un clochard céleste, tout ce que vous voulez. Il n'empêche que sa vie est absolument passionnante, en tout cas sa vie, l'épisode que nous raconte Philippe Jaénada, et surtout l'écriture de Jaénada, il utilise énormément de parenthèses. C'est un style qui est unique, c'est son style à lui, c'est magnifique, et ça m'a donné envie d'écrire en plus. Bon, j'ai pas été publié encore, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais ça m'a en plus donné envie d'écrire. Donc ça m'a gratifié, ça m'a valorisé, et mine de rien, j'ai fait un petit bout de chemin, ça a infusé en moi, j'ai fait un petit bout grâce à Jaénada.
Le chameau sauvage disponible en poche, même question, même punition, William Marx du Collège de France.
Oh, ce n'est pas une punition.
C'est difficile de choisir, c'est pour ça que je parle de punition.
C'est très difficile de choisir. Je voudrais effectivement citer deux livres lus dans l'adolescence ou dans la post-adolescence et qui ont été absolument fondateurs pour moi, parce que Carlo Ossola disait les livres, ils arrivent, c'est un peu comme les emmerdes, on disait, ils n'arrivent jamais seuls, ils sont toujours en groupe, mais c'est vrai qu'ils dialoguent entre eux et parfois l'un est l'antidote de l'autre. Le premier livre, c'est la soirée avec Monsieur Tess de Paul Valéry, que j'ai lu lorsque j'avais 14-15 ans, et qui présente un personnage qui est une sorte de pure conscience, de pur esprit, pure volonté aussi, qui travaille sur lui-même. Et moi, ça m'a appris, ce livre, la force de l'intelligence, la force de l'esprit. Et c'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir essayer de savoir se concentrer le plus possible sur ce qu'on fait pour mieux le faire. Et puis je suis rentré dans l'œuvre de Paul Valéry par ce biais-là. Et puis, alors ça, c'était un livre très intéressant, intellectuel et très spirituel. Et il y a un autre livre qui, lui, m'a fait à la fois du mal et du bien. Parce que nous disons beaucoup que là, les livres nous font du bien, mais parfois, ils nous font du mal. Et ce mal aussi nous permet d'évoluer. Quand j'étais en classe préparatoire, j'avais 19 ans, j'étais en Cagne, je préparais le concours des Cours Normales Supérieures, et j'ai lu, je m'en souviens très très bien, c'était au mois de janvier, j'ai lu Les Désarrois de l'élève Turles, de Robert Musil, un livre de 1906, qui est un livre qui est extraordinaire, enfin qui parle des tourments sensuel, intellectuel, philosophique d'un jeune élève autrichien d'un pensionnat militaire au début du XXe siècle. Mais c'est un livre absolument extraordinaire et qui parle de la crise interne et de la crise sociale. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis totalement retrouvé dans la peau de cet élève Turles, et j'ai moi-même subi cette crise. C'est-à-dire que je suis rentré dans une profonde dépression. Pendant 15 jours, j'ai arrêté d'aller à l'école, d'aller au lycée, et je ne savais plus que faire. J'étais vraiment au bord du gouffre, en quelque sorte, et puis j'ai surmonté ça. C'est-à-dire que le livre m'a fait entrer en crise et m'a permis ensuite d'accepter effectivement tout ce qu'il y avait en moi de complexité charnelle, de rapport à la société, etc. Et je suis sorti plus fort de ce livre que je recommande à tous, qui est un livre absolument fascinant. Donc, les livres, vous savez, c'est des choses qui vous bouleversent et qui vous transforment parfois en bien, parfois en mal, mais il faut passer par le mal pour aller vers le bien, parfois. Et ça a été le cas avec les désarrois de la Lefterless de Musil, que je recommande à tous.
Et pur hasard, William Marx, notre chroniqueuse Gwenaëlle Boulay, a choisi le même livre.
Oui, il faut qu'on se rencontre. Non, alors moi, je n'ai pas fait une dépression de 15 jours, mais effectivement, devant ma bibliothèque hier, parce que c'est quand même super dur que vous êtes là, vous dites « qu'est-ce que je vais choisir ?» etc. Effectivement, j'ai choisi Les Désarrois de l'élève Turles, que j'ai lu mon été de fin de Cagne, effectivement aussi.
Disponible en poche.
Disponible en poche. Et effectivement, alors j'ai de dire un peu autre chose, mais pour moi, c'est le livre qui m'a ouverte à l'idée que, alors j'aimais déjà lire, etc., j'avais été biberonnée à de la littérature de jeunesse qui était fantastique, donc voilà, ça faisait partie de ma vie de lire, mais Les Désarrois de l'élève Turles, c'était la puissance de l'entrée dans la noirceur, dans la complexité humaine, voilà, c'était ça que je découvrais, et pour moi, ça a été, après, je me suis rendu compte, en regardant ma bibliothèque hier, que tous les livres sur lesquels je m'arrêtais, en fait, c'était ça. Donc, ça a été l'adversaire d'Emmanuel Carrère. Après, dans un autre style, qui n'est pas La Noirceur, mais c'est L'Enfant Bleu d'Henri Beauchaud, que j'aime beaucoup. C'était à chaque fois tous ces livres qui nous font pénétrer dans ce qu'on, peut-être, avec chance, on ne vivra jamais. Et peut-être qu'il y a des noirceurs, Jaénada, c'est ça aussi.
Ouais,
il va nous faire pénétrer dans des livres, comme ça, des existences qu'on ne vivra peut-être jamais, mais qui nous permettent de voir le monde comme ça, en kaléidoscope, avec toutes ces complexités, ces noirceurs. Ce livre, pour moi, ouais, c'est fantastique.
Et à titre personnel, moi, l'un des grands livres qui a un peu changé ma vie et ma vision de la mort, c'est La mort d'Ivan Illich de Tolstoï, qui raconte les derniers jours de ce magistrat abandonné de tous, de ses collègues, de sa femme, de sa fille. Et c'est un livre absolument, mais incroyable sur la mort. C'est une nouvelle hein, de Tolstoï, la mort d'Ivan Illich. Réflexion, Carlos Sola, sur tous nos choix.
Les choix sont vraiment, je dirais, la photo de la pluralité de nos vies. Je trouve que c'est merveilleux de voir comment les livres sont une belle représentation de ce théâtre de la vie. Et ça montre bien que quand un livre est lu, devient non pas seulement un personnage, mais devient notre vie. Et de ce point de vue-là, nous sommes à peu près rassurés qu'il n'y aura pas une défaite des livres tant qu'il y aura des personnes, parce que la pluralité est telle.
Et vous êtes très optimiste, en fait, Carlos Sola, parce qu'on parlait tout à l'heure du décrochage de la lecture, mais pour vous, le livre perdurera. J'ai lu certaines interviews de vous à propos de la sortie d'Entrée sans frapper. Vous êtes optimiste?
Oui, je ne suis pas vraiment optimiste au sens habituel du terme, mais je dépends, pour ainsi dire, de la formule ou prescription de mon ancien maître qui disait « on ne fait pas l'histoire du négatif ». Pas dans le sens qu'on doit oublier ou ne pas examiner ce qui a été négatif dans l'histoire et dans le présent, mais c'est qu'on ne peut pas bâtir sur le négatif. Et donc, si on veut faire une bildung, construire quelque chose, il faut nécessairement, comme Italo Calvino le dit, choisir à l'intérieur de cette boue qu'est la société que nous vivons, ce qui n'est pas boue, et bâtir sur cette pierre. Donc, il faut. Le livre est en effet une pierre solide, et normalement, sur laquelle on peut bâtir.
Sylvain Gédrézac.
Moi, je crois que les livres rapprochent les gens. Donc, tant qu'on sera ensemble, qu'on vivra ensemble dans cette société, moi, je le vois à la librairie. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, justement, qui me disent, voilà, je suis en train de scroller toute la journée, je suis happé par mon mobile, j'ai besoin de découvrir la lecture. Ils découvrent la lecture, je leur propose quelque chose, c'est mon métier. Ils reviennent, on en parle. Et le débat est lancé. Je leur parle d'Emma Bovary. On lance le débat. Si, mais ça peut leur donner envie, bien justement. Emma Bovary ou American Psycho, il y a du débat. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on n'aime pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On en parle. Et tant qu'on aimera, et en France, on aime ça. Enfin, en Italie aussi, hein, certainement. Mais on aime débattre, on aime la contradiction. Le livre aura son mot à dire. Il n'y a pas de souci.
Allez, il est temps à 10h40 de retrouver la chronique Ma vie de parent de Gwenaëlle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut! Merde!
Alors comme ça, Gwenaëlle Boulay, sur un sujet aussi beau que la lecture, vous avez failli sécher la chronique et ne pas venir.
Oui, c'est vrai. Si je n'avais pas craint de vous décevoir fortement, Ali, et de recevoir un avertissement de la plus grande chaîne de Radio de France pour désertion de poste, j'avoue que je me serais bien passé de cette chronique. Cela m'aurait peut-être évité de m'infliger cette petite humiliation gratuite, à savoir qu'on a eu l'impression de cocher toutes les cases du manuel « Comment donner le goût de la lecture à vos enfants en 10 leçons ». Eh bien, force est de constater que j'ai en grande partie échoué et que ce sujet de la lecture donne lieu chez moi depuis des années à de savoureuses prises de bec avec mes enfants.
Alors, quels sont ces conseils que vous avez scrupuleusement respectés, justement?
Eh ben, il vous suffit d'aller ouvrir n'importe quel site sur le sujet pour avoir à peu près les mêmes conseils. À savoir, 1. Commencer à lire des livres le plus tôt possible en partageant des moments complices autour de la lecture. 2. Donner l'exemple en lisant devant vos enfants. Si votre enfant voit que vous lisez souvent avec le plaisir, ça l'incitera à vous imiter. 3. Quand il commence à lire, lisez à tour de rôle pour le faire entrer avec plaisir dans cette activité. 4. Écoutez votre enfant et tenez compte des centres d'intérêt qu'il développe en grandissant. Si un sujet l'attire particulièrement, cherchez des livres adaptés à son âge qui pourraient l'intéresser. Enfin 5, instaurer des rituels pour intégrer les livres dans le quotidien. Voilà ce que nous avons donc appliqué à la fois naturellement et scrupuleusement avec nos enfants.
Et les mêmes causes ne produisant pas toujours les mêmes effets, ça n'a donc pas complètement porté ses fruits.
Et non, si j'en crois encore l'engueulade de ce week-end avec mes enfants, on va dire que les résultats sont très frustrants et qu'en général je fuis un peu les discussions entre amis qui commencent par « ça y est, il a fini Harry Potter, là il s'est lancé dans la saga de la guerre des clans, il y a 50 tomes ». Ok, il semblerait que mon application à faire lire mes enfants à coups de 10 bouquins par semaine ramener à la maison, a peut-être même été contre-productive. Après plusieurs années à tenter de leur donner le goût de la lecture et peut-être, qui sait, atteindre le fameux déclic, j'avoue avoir parfois du mal à trouver les arguments qui feraient mouche. Car que dire à un enfant qui, tout en ayant adoré les moments passés autour des livres petits, ne trouve pas le plaisir promis dans le fait de lire, ne voit pas ce que ça lui apporte d'aussi plaisant que d'autres activités, qu'elles soient sportives, manuelles, amicales, artistiques, et je ne parle pas de l'écran, concurrent numéro 1 de la lecture, à qui à la phrase « Mais c'est comme un film, tu pars dans des aventures incroyables !» vous répond « Mais moi, ça fait pas du tout comme dans un film. Quand je suis concentrée à lire, bah, je vois pas les images. » Vous avez beau lister tous les bienfaits de la lecture, développement de la concentration, du vocabulaire, de la pensée, de l'empathie, ce processus et cette rencontre vous échappent, et c'est comme ça.
Et vous avez donc abandonné, Gonelle.
Pas si vite, petit scarabée, c'est bien mal me connaître. Non, non. Si peu à peu, j'intègre tant bien que mal l'idée que mes enfants ne seront peut-être pas des fous de Duras ni de Flaubert, j'apprends aussi à me réjouir de petites victoires. Comme ce livre d'histoire de la mode, ouvert près de la tête de lit de mon ado, ou cette émotion enfin vécue par le plus jeune à la lecture du sublime roman graphique Émergence 7, ou ce moment de grâce inattendu, ou, lisant Phèdre à ma fille pour un devoir de lycée, celle-ci se révolte soudain, mais c'est atroce ce qui lui arrive, touchée par la tragédie de cette pauvre Phèdre. Mini victoire, certes, mais je me dis que quand Racine touche encore les cœurs, alors rien n'est perdu.
Votre regard, Régine Atchondo, présidente du Centre National du Livre.
Oui, on dit que les parents, effectivement, sont très moteurs, donc je ne sais pas où est la faille, excusez-moi.
Eh oui.
Ce qui est certain, c'est que je pense quand même que le fait de vous avoir vu lire beaucoup et prendre du plaisir...
Ça laisse des traces quand même.
...fonctionne peut-être pas là, aujourd'hui, dans un âge, je suppose, adolescent, où de toute façon, c'est le moment où on a envie de laisser tomber la danse quand on est au conservatoire, la musique et le piano quand on est aussi au conservatoire de musique. C'est quand même un âge où on est un peu en rupture. Mais je pense que le fait d'avoir vécu avec petit... Moi, c'est ça qui m'inquiète. Je suis moins optimiste que vous, messieurs. Ce qui m'inquiète, c'est que la nouvelle génération, enfin, les bébés qui naissent aujourd'hui, ils naissent dans un monde où les parents, on en a parlé, où les grands-parents, désormais, puisqu'on voit les études, ont eux-mêmes ce rapport totalement, ce mésusage, d'une certaine manière, à leur smartphone, et cette addiction. Je sais que certains chercheurs n'aiment pas qu'on utilise ce terme, mais néanmoins, on peut parler d'addiction. Donc, ce que je crains, c'est que ce sont ces bébés-là, et on en a déjà qui aujourd'hui ont 10-20 ans, et les enseignants notamment mesurent un peu quand même la catastrophe dans la relation à la concentration, à la mémoire, au langage, au vocabulaire, à la capacité de s'exprimer. Je pense que ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est cela. Vos enfants vous ont vu lire tout petit. Lorsqu'ils étaient bébés, vous leur avez lu des histoires. Et je pense que ça peut revenir à 20 ans, 30 ans. Faut pas s'inquiéter.
France Inter.
Dites-moi, pourquoi brûlez-vous les livres ?
Parce que les livres ne font que du mal.
Grand bien vous fasse.
Vous croyez vraiment ce que vous dites ?
Ah oui, ils troublent l'ordre public, ils empêchent le progrès social.
Ali Rebbi.
Vous avez peut-être reconnu Fahrenheit 451, le film de Truffaut. Et ce matin, on s'intéresse à tous ces livres qui détiennent le pouvoir extraordinaire de changer nos vies. Racontez-nous d'ailleurs quels sont les livres qui ont changé votre vie au 01 45 24 7000. Et nous accueillons un libraire, l'un de vos collègues, Sylvain Gédrézac.
Oui,
bonjour, Antoine Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire à la librairie Michel à Fontainebleau en Seine-et-Marne. Comment incitez-vous, Antoine Bonnet, vos clients qui poussent la porte de votre librairie et qui cherchent un livre qui pourrait leur redonner le goût de la lecture? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous y prenez?
C'est une vaste question tout ça. La première chose, c'est de se mettre à leur portée, de savoir ce qu'ils aiment, leur goût. Et c'est vrai que bon, c'est pour le coup... pas si facile que ça, donc on essaye justement de discuter avec eux et de leur proposer quelque chose qui va leur sied. À ce sujet-là, j'ai une petite anecdote que j'avais évoquée avec vous quand vous étiez passé à la librairie. Un couple de trentenaires qui viennent régulièrement à la librairie, mais la femme lit énormément. Et son conjoint, lui, pas du tout. Et c'est la première fois que je discutais avec lui. Et il me dit, voilà, on parlait tout à l'heure, quoi. Vous parliez plutôt de scroll, de Netflix. Et cette personne me dit, voilà, j'en ai marre de mon téléphone, j'en ai marre de Netflix. Qu'est-ce que je peux lire pour me sortir, en fait, de ça? Et donc, je lui ai conseillé, après avoir discuté avec lui, la trilogie d'Olivier Norek. Quand vous parliez de Norek tout à l'heure, voilà, c'est quelqu'un qui regarde énormément, parce que je dis bien, il regardait énormément de séries policières à la télé, et en lui ayant conseillé en fait ça, donc la trilogie de Norek avec Code 93 et les autres par la suite, voilà, ça lui a changé en fait sa façon de prendre du temps autre que en utilisant les écrans. Et maintenant, c'est un lecteur qu'on a de façon récurrente. Alors, il est toujours dans sa zone de confort, donc sur le côté policier. Mais voilà, je ne doute pas que j'arriverai à lui faire lire d'autres choses par la suite.
Sylvain Gédreza, comment vous y prenez, vous, dans votre librairie Le Pavé du Canal, dans les Yvelines ?
Alors, ce qu'il faut, c'est aller vers le plaisir. Voilà, on demande aux gens... Voilà, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez vécu, et on va vers du plaisir. Et on parlait de la femme de ménage, je veux vraiment lui rendre hommage aujourd'hui à cette femme de ménage. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est un phénomène de librairie. On n'avait pas vu ça depuis Elena Ferrante. Moi, à la librairie Le Pavé du Canal, j'en vends 15 par jour. Ça se calme un peu, mais ça va revenir. Et c'est quelque chose qui peut vraiment donner envie, parce qu'il y a un plaisir de lecture, c'est un polar qui n'est pas du tout indigent. Moi, j'y allais un petit peu, on en parlait tout à l'heure, avec des pincettes au début. En fait, non, c'est vraiment très bien, on est pris. Donc, ça peut permettre
d'aller... La femme de ménage de Freda McFadden.
Ça peut permettre d'aller vers d'autres choses. Et il y a juste un mot sur... Je voudrais parler des professeurs aussi, qui font vraiment des efforts en ce moment sur les prescriptions. Quand on a Crénom Baudelaire de Jean Tellet, qui est donné à une classe de seconde, ou juste La fin du monde de Lagarce, qui a été adapté au cinéma avec Gaspard Ulliel, ça donne plaisir, ça donne envie, et ça, c'est vraiment des locomotives qui ne sont pas anodines.
Je pense que c'est vraiment l'élément majeur, c'est donner envie de lire, mais lire pour le plaisir, sans se sentir évalué. Nous, c'est ce qu'on fait avec le festival qui va s'ouvrir bientôt, Partir en livre. Ouais. C'est vraiment l'idée de casser cette peur d'être jugé, dévalorisé, de pas comprendre, d'être tout seul. Donc, la lecture à voix haute pour le plaisir partagé, et arrêtons de culpabiliser sur les livres qu'il faudrait avoir lus, ou ceux qu'il faudrait ne pas lire. Il y a eu cette polémique autour du pass culture qui, à un moment, s'appelait le pass manga.
Et alors ?
Il y a beaucoup de libraires. Et il y a beaucoup de libraires qui m'ont dit, mais voilà, une fois les 7 premiers tomes de Naruto, One Piece achetés, j'avais plein de jeunes qui revenaient, alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans ma librairie avant, et qui revenaient, qui me disaient, qu'est-ce que vous me conseillez ? Par exemple, il y a une chose qui m'amuse, je fais une parenthèse, d'en partir en livre, dans le Livrodrome, qui est un parc d'attractions littéraires qui se promène en France, on a des auteurs qui viennent interroger les jeunes sur leur goût, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Et ils leur font des ordonnances littéraires, non pas médicales, mais littéraires, en disant, bah, dis-moi qui tu es, je te dirai ce que tu dois lire. Et je pense qu'il ne faut pas du tout juger.
Merci beaucoup Arthur Bonnet de nous avoir appelé. Comment lire m'a sauvé la vie ? Eh bien, écoutons l'écrivaine Daisy Buchanan dans le Daily Telegraph, cité dans Courrier International en mai dernier, et c'est lu par Mao de Butler.
J'ai surmonté toutes sortes d'épreuves. Fractures, trajets interminables, infections urinaires, licenciements ou déménagements, en lisant. À l'âge de 21 ans, quand mon ex s'est présenté à une soirée avec sa nouvelle petite amie, je me suis réfugiée aux toilettes avec un exemplaire de Gendre et Martyr de P.G. Woodhouse et n'en suis sortie qu'après avoir suffisamment ri pour retrouver mon calme. L'an dernier, lorsque l'Eurostar est tombé en panne entre Paris et Londres, j'ai pu préférer la compagnie d'André Léon Talley, journaliste de mode et auteur de The Chiffon Trenches, à celle des soupirs et murmures de contrariété environnant. Le jour de mon mariage, ma marraine a lu un extrait de La poursuite de l'amour de Nancy Mitford. Elle était emplie d'une joie étrange, sauvage et nouvelle, et sut ce qu'était l'amour. Je lis et relis ce roman depuis mes 12 ans. Il fut un invité de marque durant cette cérémonie, un ami cher dont la présence comptait énormément pour moi. Il m'avait également guidée dans ma propre recherche de l'amour durant toute ma vie d'adulte. Lorsque mes affaires de cœur tournaient mal, ce qui était souvent le cas, les mots de Nancy Mitford étaient le meilleur réconfort possible. Hier comme aujourd'hui, il m'apporte joie et encouragement à la manière d'un véritable ami.
L'écrivaine Daisy Buchanan dans le Daily Telegraph, cité dans Courrier International et lu par Mao de Butler. Qu'est-ce que ça vous inspire, William Marx, professeur au Collège de France ?
Le livre est toujours une manière de trouver un salut. Hein. En fait, on lit un livre, on ne lit jamais un livre par hasard. Je pense qu'on lit toujours un livre avec l'idée de trouver quelque part quelque chose qui donnera un sens à notre vie. Et c'est effectivement l'un des rôles des livres. C'est-à-dire qu'en fait, on y va pour comprendre quelque peu le monde qui est autour de nous et comprendre notre propre vie. Et c'est ce qui est raconté ici par cette autrice.
Carlo Sola.
Oui, je pense au livre de Jean Starobinski, Le remède dans le mal. Le livre n'est pas nécessairement seulement une manière de sortir de notre contingence de nos jours, mais souvent c'est réellement la manière, comme nous l'avons entendu, c'est un remède dans le mal. On prend le mal de vivre et on... Par les livres, on y sort. Et je pense que plusieurs livres de Jean Starobinski, je pense notamment aux Enchanteresses, il était en plein déménagement à 80 ans, et pourtant il écrit ce livre merveilleux sur Mozart. Le livre a cet effet. Je dirais que ce que nous venons de dire tous, finalement, on nous porte vers l'une des dernières phrases de Roland Barthes, dans le cours sur comment vivre ensemble. Pour bien vivre ensemble, il faut vomir l'événement. Et je pense que le livre a cette force. L'événement est quelque chose qui arrive, qui nous met dans une espèce d'effervescence et distraction, alors que ce qui est essentiel dans nos vies est toujours la même chose. On dort comme on dormait, je pense, il y a 10 000 ans, on mange de la même manière, etc. Et finalement...
On aime peut-être de la même manière, peut-être.
Voilà. Et donc, je pense que le livre est l'un des éléments qui assure cette continuité.
William Marx.
Oui, je voudrais aussi citer, on citait Barthes, je voudrais citer Bachelard. Gaston Bachelard, dans Poétique de la rêverie, dit « Toute notre vie est lecture. La lecture est une dimension du psychisme moderne. Le livre est permanent, il est sous vos yeux comme un objet. » Je crois qu'effectivement, le livre, comme le dit très bien Carlo Sola, nous fait entrer dans le solide. C'est-à-dire que par rapport à la mouvance de la vie, l'écrit fait entrer dans la permanence du psychisme, il stabilise l'être. Il d'où son importance dans tous les souvenirs d'enfance. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des livres dans les mains des enfants. C'est absolument important. Il y a une permanence de l'écrit par rapport à l'oral et par rapport à la mobilité de l'image.
Il nous reste une minute et je vous ai demandé, avant de préparer cette émission, un livre que vous avez envie de conseiller à un jeune de 20 ans. Sylvain Gédrézac.
Gabrielle Filto-Shiba. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une autrice québécoise qui vivait à Montréal. Elle a décidé d'aller dans la forêt, dans le nord du pays. Elle s'est encabanée. Elle est restée dans sa cabane, elle a reforesté, etc. Elle en parle dans son nouveau livre, Exa, chez Stock.
Regina Tchondo.
Alors écoutez, on n'est pas très éloignés, mais ce n'est pas le même livre. Moi, je pensais à Mes forêts, d'Hélène Dorion, qui est d'ailleurs rentrée au bac français, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que c'est la première poétesse, donc femme poète, qui rentre au bac. Elle est aussi canadienne.
Tout à fait.
Et elle, c'est une ode à la nature, qui d'après moi peut apaiser. Et c'est d'une poésie, d'une beauté absolument incroyable. On a l'impression d'entendre les feuilles craquer sous nos pieds, de voir les rayons transpercer les feuilles des arbres géants de cette forêt dans laquelle elle vit.
Carlo Sola, en quelques mots.
Moi, je pense aux pensées pour moi-même de Marc Aurèle, oui. Surtout en pensant à mes petits-enfants qui se sont perdus dans ce monde qui est plein de hyperpuissance. Alors, les souvenirs de Marc Aurèle, qui était le grand empereur, nous montrent qu'on peut très bien vivre dans nos petits coins, mais être en paix avec soi-même.
Je vous rejoins, Carlo Sola, pensée pour moi-même de Marc Aurèle. On a 10 secondes, mon cher William Marx.
Écoutez, pour moi, ce sera Une saison en enfer de Rimbaud. C'est le livre de la révolte et du salut. Je voudrais juste, pour tout adolescent, pour tout le monde, elle est retrouvée, quoi ? L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Voilà, comment faire plus beau que cela ?
Merci beaucoup, William Marx. On peut lire avec profit votre été avec Don Quichotte. Merci, Sylvain Gédrézac. Merci, Regina Tchondo. Merci Carlo Sola. Entrer sans frapper, c'est aux belles lettres. Et je recommande également, ça c'est indispensable en ce moment, les vertus communes également aux belles lettres.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.